n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Laisse pas béton.
Bonsoir, bienvenue dans N'est-ce pas béton sur Radio Panique 105.4, l'émission qui donne la parole aux premières personnes concernées par la tôle. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Flo.
Moi, je suis Greg.
Et moi, c'est Mia.
Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'enfermement des personnes sans papier. On va donc parler de centres fermés, de double peine et de personnes sans papier en prison. Les moyens de répression de notre société sont nombreux et prennent de multiples formes. Si la prison en est l'exemple le plus explicite, l'État cadenasse les libertés ailleurs. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux que le gouvernement appelle les illégaux. Le mot prison n'est pas posé sur ces structures qui enferment, mais les mécanismes sont les mêmes. La violence y est tout aussi extrême, malgré les euphémismes utilisés par le gouvernement.
Nous en avons déjà parlé lors des précédentes émissions, mais aujourd'hui, on met les deux pieds dedans. On va faire un tour du côté des centres fermés pour étrangers. Comme les prisons, les centres fermés reflètent un racisme structurel bien ancré et la perpétuation des pratiques néocoloniales. Cet enfermement est justifié, selon le gouvernement, par l'absence de « bons papiers » ou quand les frontières s'érigent en véritable obstacle à la liberté. La détention des étrangers se fait depuis les années 80 et est devenue la pierre angulaire des politiques migratoires belges.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques infos sur ces centres. Il y a aujourd'hui 6 centres fermés en Belgique et au moins 2 projets en construction. Le Caricole et le 127 bis à Steenhokkerzeel, le centre fermé de Merkplaats, le centre fermé de Bruges qui est d'ailleurs une ancienne prison, le centre fermé pour femmes d'Olsbeek qui a ouvert l'année passée et le centre fermé de Votem à Liège. Ces centres sont presque tous situés non loin d'un aéroport, un peu comme s'il fallait faire miroiter l'expulsion aux personnes détenues. Dans la législation, les centres fermés ont pour fonction l'enfermement des personnes en séjour irrégulier. Ils sont autorisés par la loi du 15 décembre 1980, portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Alors, dans un centre fermé sont détenues les personnes, ouvrez les guillemets, mises à la disposition du gouvernement ou maintenues. Soit parce qu'elles sont en situation irrégulière, soit parce qu'elles sont en attente d'une décision de l'Office des étrangers suite à leur demande d'asile. Même si le lexique juridico-administratif ne les nomme pas comme tels, les centres fermés sont de réelles prisons. Privation de liberté, menottes, violences policières, barbelés, barrières et surveillance sont bel et bien au rendez-vous. Pourtant, dans la loi, les centres fermés ne sont pas comparés à des prisons. C'est bizarre, hein, n'est-ce pas Flo ?
Tout à fait, Greg. J'ai donc été vérifier dans le Petit Larousse la définition du mot « prison ». Et voilà ce qu'il nous dit. La prison, c'est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en un sens de jugement. C'est donc un lieu quelconque où quelqu'un est ou se sent séquestré et enfermé. C'est aussi le symbole, dans la langue littéraire, de tout ce qui tient enfermé, contraint ou fait perdre la liberté. En conclusion, ta gueule la loi, le Petit Larousse, il dit clairement que ces centres fermés sont des prisons. Et ça y ressemble. Des grilles, des barbelés, des caméras, des matons qui décident quand vous mangez, quand vous pouvez sortir de votre chambre, quand vous pouvez éteindre votre lampe, quand vous pouvez avoir de la visite, des matons qui organisent des fouilles, des matons qui vous confisquent vos téléphones, et surtout, des matons qui détiennent les clés de l'endroit où vous êtes séquestré. Mais non, dans un centre fermé, on ne vous sert pas des petits fours. Plutôt, on va vous taper au cachot quand vous êtes malade, ou on va vous balancer dans un avion entouré de 5 keufs pour s'assurer que vous avez bien retourné dans votre pays d'origine, et parfois, on vous y étouffe. Semira, il y a 20 ans, en est morte, assassinée par la police. Nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs.
Bon, après, il y a quand même quelques différences avec les autres prisons, Dans un centre fermé, il s'agit de détention extra-pénitentiaire où la décision d'enfermement est uniquement administrative. Ces centres sont sous la gestion directe de l'Office des étrangers qui y a tout pouvoir. Les gens ne passent donc pas devant un juge, les décisions sont totalement arbitraires. C'est vraiment selon l'envie du moment en fait. Et sur la détention, il y a aussi une autre grande différence, c'est que les détenus ne savent pas quand leur détention prendra fin. Ils peuvent être libérés demain ou dans 8 mois. C'est un peu comme dans les prisons psychiatriques où la date de fin d'enfermement est souvent inconnue. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes disent que c'est le plus difficile à vivre, cette incertitude-là.
Après ces précisions un peu techniques, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir comment ces conditions sont vécues par les premières personnes concernées. Nous commençons avec le témoignage de Gabriel, qui est détenu au centre fermé du Caricol. Nous préférons vous prévenir que ce témoignage est très lourd en émotion. Nous avons voulu le garder tel quel car nous pensons que se confronter à ce genre de témoignage est fréquent quand on parle de personnes sans papier. Leur quotidien est tellement baigné de répression et de détresse qu'il est impossible de s'en passer. Il ne s'agit pas de les victimiser, mais de mettre en lumière une colère légitime. Tout de suite donc, Gabriel.
Donc, je suis camerounaise, déjà. Donc, j'ai quitté mon pays, ça fait depuis le 11, je suis arrivée ici le 12 janvier. Le 12 janvier, à l'aéroport de Zaventem. Seulement le fait que je n'avais plus de passeport, je suis restée à l'aéroport jusqu'à 17h. Quand je demande l'asile, quand j'arrive, on me dit quel est ton problème, j'explique. Après, ils ont monté un dossier. Ils disent que le dossier qu'ils ont monté, il faut que je signe pour mon entrée au centre. Ils n'expliquent pas centre fermé ou centre ouvert. Et tout le dossier est écrit en néerlandais. Je signe, parce que ce qui est écrit, je ne connais même pas ce qui est écrit. Moi, je signe. Quand j'arrive ici, on me dit le papier que j'ai signé, c'était pour mon refoulement. Ça veut dire qu'ils ont le droit de me refouler quand ils veulent. J'ai eu l'interview 2 fois. La première interview, j'ai passé mon interview 3h30. L'autre interview, elle m'a pris à 10h, elle m'a libérée à 11h. Il faut que c'est venu après une semaine, qui est venu sur le négatif. Et quand ça vient sur le négatif, ils disent qu'ils ne comprennent pas comment j'ai quitté le Cameroun sans mes enfants. Donc ça veut dire qu'ils sont faits seulement pour renvoyer les gens. En fait, ils ne sont pas là pour aider les gens. Ils sont là pour faire rentrer les gens. Parce que ce que j'ai compris ici après, le fait d'ouvrir même ce centre, c'est pour travailler leur argent. Ce n'est pas pour aider les gens. Ils marquent juste les images. Le 12 mai, ils sont venus encore m'ajouter encore 2 autres mois. J'ai demandé au psychologue, mais vous êtes obligé de me garder comment? Puisque vous avez libéré les autres. Toi-même, le psychologue, tu ne fais pas ton travail. Le médecin ne fait pas son travail. Elle dit non, ce n'est pas nous, c'est l'office des étrangers, ce n'est pas nous. J'ai dit que non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce que vous êtes en train de me tuer. Vous êtes en train de me tuer. Quand tu viens, je pleure. Tu repars, mais tu ne m'aides pas. Tu ne fais pas ton travail. Hein? Si moi que je suis restée dans mon pays, je me suis cachée pendant 4 ans. Je reviens chez vous, je vous demande de l'aide, vous m'enfermez pendant 6 mois. C'est normal. Est-ce que c'est normal ça? Elle me dit, non, il faut te calmer. Non, on va voir. Elle dit que demande à ton avocat de demander une libération. Elle dit que mon avocat va demander la libération, vous allez refuser. Vous allez refuser la libération. C'est pas facile. C'est pas facile. Les gens, si... Il n'y a rien de compréhensible là-dedans. Tu ne peux pas dire c'est parce que c'est comme ça que c'est comme ça, non. Ici, là, ils font sortir les gens comme ils veulent, ils font lancer les gens comme ils veulent, ils refoulent les gens comme ils veulent. Peu importe le dossier que tu as déposé, ils ne tiennent pas compte de cela. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne prend plus. Je suis dans la nuit, je ne dors pas parce que tout mon corps est contracté. Je veux qu'on va me dire ce que j'ai vécu à la vie. Je dis, je suis là où on va, mais on ne m'aide pas. On ne m'aide pas, on m'aide le paradis. Le paradis, est-ce que le paradis peut me traiter? Le paradis ne peut pas me traiter. La nuit, je ne dors pas. Les yeux suintent. Ils m'ont brisé. Les gens m'ont plutôt tué.
Ouais, c'est hyper touchant comme témoignage. En fait, on entend qu'elle est vraiment super en colère, qu'elle se bat tous les jours contre ses injustices et contre les injustices qu'elle vit tous les jours. Et moi, j'ai envie de lui dire courage et de dire courage à toutes les personnes qui subissent, qui vivent ces situations.
Ouais, ouais. Et ce qui me marque aussi dans ce témoignage, c'est le fait de devoir réexpliquer dans toutes les étapes de l'accueil, soi-disant en Belgique, tu dois réexpliquer par quoi tu es vécu, tu dois prouver que tu as souffert pour pouvoir avoir droit à un papier. Et je voulais juste aussi signaler que, enfin, à un moment, elle dit. J'ai signé un papier, on m'a dit que c'était pour quelque chose, et en fait, c'est pour faciliter mon expulsion, et ça revient très souvent, en fait. C'est vraiment une technique qui est utilisée pour pouvoir envoyer les sans-papiers en leur mentant sur ce qu'ils signent.
Ouais, du coup, moi, j'endrais sur le fait qu'elle parle du personnel qui bosse dans le centre. Et ça, c'est souvent, dans les témoignages, c'est souvent dit, c'est en fait... Il y a une forme de collaboration aussi par rapport à l'expulsion, parce qu'en fait, ils doivent aider à faire expulser ces personnes, donc à les dégager. Et je trouve que ça s'entend pas mal, en fait, dans ce qu'elle dit, quand elle dit « Vous n'êtes pas là pour aider les gens, vous ne m'aidez pas. » Moi, ce qui... ouais, si je dois faire un focus émotion, ben ouais, moi, ça me fout la haine, ça me fout la rage sur l'enfermement, on entend sa colère et je trouve qu'elle nous la partage bien. Et je crois que ce qui m'a aussi vraiment fait chier dans ce que j'ai entendu, c'est cette forme de culpabilisation aussi de la part de l'Office de l'étranger. Quand ils disent... quand Gabriel explique que... on lui a dit que... mais comment est-ce que vous avez pu partir sans vos enfants ? Moi, ça m'interpelle super fort, en fait. On s'en fout un peu de son histoire, on la culpabilise. On lui dit c'est de ta faute. Comment t'as pu abandonner... tes gosses, moi je trouve que c'est odieux en fait, parce que elle a vécu des choses pas faciles. On la renvoie à son statut de mère en oubliant en fait ce qu'elle a vécu aussi à côté et en occultant complètement son histoire. Et donc ça montre aussi le côté complètement arbitraire en fait de l'Office des étrangers, de j'ai envie d'y croire ou j'ai pas envie, j'ai envie de te donner tes papiers ou j'ai pas envie de te donner tes papiers et le reste on s'en fout en fait. Voilà.
Voilà, ben merci à Gabriel pour ce témoignage. Ben on va faire tout de suite une petite pause musicale avec Zebda, Double Peine.
Je cours dans la neige sans les moufles. Ainsi est la rencontre du quatrième. deuxième type. Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne et que j'ai des herbes, celui qui tue l'oxygène. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois.
L'Espa Béton sur Radio Panique 105.4. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Jean-Pierre, toujours dans la thématique de la double peine, donc pour suivre sur l'interlude musical. Donc Jean-Pierre, qui est passé par la case prison avant d'être transféré en centre fermé, il subit donc la double peine. On l'écoute.
En fait, il n'y a pas une grande différence entre la prison et le centre fermé, c'est la même chose, hein. J'étais enfermé dans quatre murs, dans le centre et en prison aussi. Moi, j'ai passé par... J'étais en prison du Saint-Gilles. Voilà, j'ai fait une bêtise avant. Voilà, c'est pas une grande chose. J'ai fait une bêtise pour... Voilà, parce que vous savez, quand on est jeune, je pense que tout le monde a fait des conneries dans sa vie. Je devrais payer, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, moi aussi, je voulais payer ma dette. J'avais pas grand chose, j'avais 27 mois à faire. Et voilà, le police a vu mon adresse, mon appartement et tout ça. Le police quartier est venu me voir à la maison, m'a dit, voilà, monsieur, tu dois aller en prison de Saint-Gilles, on va te faire un bracelet électronique. Et quand je me suis présenté à la prison de Saint-Gilles, voilà, ils m'ont gardé, ils m'ont dit, voilà, t'as pas les papiers, on va te garder en prison, tu dois faire 8 mois. Oui, quand j'ai terminé ma peine, ils m'ont transféré dans un centre fermé. Voilà, quand je suis venu au centre fermé, normalement, je n'ai pas accepté ça. Je trouve ça injuste. Juste parce que j'ai pas du papier, que je dois faire de la prison, et déjà, on s'assoit. Pourquoi on est encore enfermé, qui nous garde ici 8 mois? Pourquoi on est des citoyens? L'immigration, ça a existé depuis l'âge, je ne sais pas quoi. Donc on est des êtres humains comme tout le monde, on n'est pas des criminels, on n'est pas... on est des êtres humains comme tout le monde, on est tous pareils, hein. Que ce soit blanc, noir, rouge, on est tous des êtres humains, on a 2 mains, 2 pieds, un cerveau, 2 yeux, donc on n'est pas différents. Pour qu'ils nous enferment, qu'ils nous traitent comme des prisonniers, des criminels, pour un bout de papier. Voilà, on trouve ça pas logique, quoi, incorrect. Mais s'ils viennent ici, dans le centre, et ils regardent, je pense qu'ils vont comprendre qu'on n'est pas des résidents, on est des détenus. Quand tu vois déjà les barbelés, les grillages, c'est la même chose, ouais. T'es torturé physiquement, moralement.
Alors moi, ce qui m'a fait un peu tiquer dans ce que Jean-Pierre explique, qui constitue la perle des perles, c'est l'euphémisation, donc comme on l'expliquait un peu plus haut dans l'introduction de l'émission, c'est de dire en fait qu'il s'agit de résidents, des résidentes, alors qu'en fait, non, c'est pas des résidents, des résidentes, ce sont des détenus. Donc là, on essaie d'amenuiser en fait ce qui se passe à l'intérieur de ces centres, qui sont en fait de réelles prisons. On essaie de les faire passer pour autre chose, un peu comme si c'était Funky, en fait, un centre fermé, un peu comme si c'était l'hôtel. Et donc, il y a vraiment cette volonté à tout le temps réduire ce qu'est un centre fermé, donc ne pas utiliser les bons mots, ou en tout cas, utiliser des trompe-l'œil. Ça me fait penser aussi à ce qu'ils avaient fait il y a plus ou moins 2 ans, quand ils ont voulu réenfermer des familles avec enfants. Ils avaient mis des véritables trompe-l'œil du coup devant les centres avec des faux champs de blé pour faire comme si en fait c'était pas des grillages en face des centres fermés mais des champs. Donc c'était assez cynique, mais c'est assez parlant en fait du malaise aussi autour des centres et du fait qu'ils essaient d'amenuiser en fait le côté prison des centres fermés.
Ouais, moi il y a une phrase qui m'a fait réagir plutôt, c'est on n'est pas des criminels, parce qu'en fait c'est une phrase qu'on entend presque toujours des personnes qui sont détenues en centre fermé, et ben ouais, je trouve qu'elles ont raison de le rappeler, mais en même temps ça fait écho à plein de choses, parce que comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, ben nous on pense que la prison c'est une solution pour personne et que ce sera toujours vécu comme une injustice. Et que dans les autres prisons non plus, ben c'est pas forcément des criminels. La plupart des personnes qui sont en prison, c'est des personnes qui sont là pour des atteintes à la propriété privée ou pour trafic de drogue. Et comme on aime bien le rappeler, et ben nous on pense que tous les prisonniers et que toutes les prisonnières sont politiques. Et ben oui, effectivement, dans le cas des centres fermés, le soi-disant crime que ces personnes ont commis, ben c'est d'avoir fui une vie trop difficile, d'avoir fui un danger ou d'avoir fui des agresseurs. Et ben ouais, leur crime en fait c'est simplement de ne pas être né ici.
On a vu ce que c'était la double peine d'un côté de la barrière. On va maintenant passer de l'autre côté de la barrière.
Déguisé en flic, c'est bien foutu leur combine.
C'est la société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Alors donc, pour le personnel pénitentiaire, c'est quoi la double peine ? Nous avons eu accès à des enregistrements provenant d'un centre fermé. Une fois n'est pas coutume, nous allons entendre la parole de personnes pour qui l'enfermement, c'est le métier. Nous avons posé la question à un travailleur à Votem. La double peine, c'est quoi ?
Il faut savoir que dans les centres fermés, ce n'est plus les pauvres petits malheureux. Nous, on a beaucoup de criminalité, c'est beaucoup de gens qui viennent de prison. Donc ils ont terminé leur peine de prison de X mois à X années et ils viennent chez nous pour être rapatriés parce que ce sont des illégaux qui ont commis des délits. Une fois qu'ils ont terminé leur peine, ils viennent chez nous pour être rapatriés. Mais on a vraiment une grosse criminalité ici.
Mais du coup, alors ces fameux criminels, qui sont-ils en fait ?
Et beaucoup de toxicomanes, du grand banditisme. Oui. On a bien sûr maintenant les imams là, avec les radicalisés. Avéré,
donc c'est un peu comme pour le Covid, il faut être testé, si vous êtes testé positif, donc vous êtes un imam avéré. Apparemment c'est ça.
Bah ouais, franchement c'est vrai qu'ils ont l'air super dangereux, mais en fait d'ailleurs je me demande, mais ils ont fait leur peine alors en prison.
Ils ont fait leur peine, mais des peines, il y a des violeurs, des tueurs, il y en a un qui vient d'arriver, il a fait 20 ans ferme, il a fait ses 20 ans, c'est tout sur des enfants de cœur. Il n'y a pas que ça, mais beaucoup. Et qui ont fait des atrocités, des choses...
Voilà. Donc déjà, on part déjà sur un énorme a priori, c'est-à-dire que les personnes en centre fermé, ce sont des personnes condamnées. On peut déjà balayer très, très vite ça. Il y a des rafles assez souvent à Bruxelles pour se rendre compte que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais là, dans la logique, donc on est condamné pour un fait, on purge sa peine et après on est refoutu en prison parce qu'on n'a pas les bons papiers. Et donc c'est ça. Et donc, selon la loi, je crois, enfin, on peut être enfermé en centre fermé pendant 2 mois, mais après c'est reconductible. Mais comment ça se passe en fait ?
Alors, du coup, c'est à chaque fois qu'il y a des nouvelles procédures qui sont en cours. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes depuis un mois et demi en centre fermé, qu'il y a une tentative d'expulsion, que la personne qui est expulsée résiste. Et du coup, que finalement, n'est pas expulsé, eh bien, tout retombe à zéro. Donc, c'est un peu comme si vous n'aviez pas passé du temps en centre fermé. Donc, on considère que votre dossier retombe à zéro. Et donc, ça a pour conséquence que les mois s'accumulent en fait et que donc ça peut arriver, vous pouvez passer beaucoup de temps en centre fermé au final puisque les mois s'accumulent, puisque à chaque fois la procédure retombe à zéro à toute nouvelle tentative de procédure, donc que ce soit pour une expulsion ou une nouvelle demande d'asile, etc., etc.
Ok, donc on écoute maintenant une travailleuse en centre fermé à propos de la double peine.
En Belge, qui est Marc Dutroux, il va arrêter sa peine de prison, imaginons demain. Bah lui, il a les papiers belges.
Il peut rester,
il va être libéré.
Si c'est un illégal
qui est vraiment potentiellement dangereux, bah lui, on parlait de cette maître ici pour essayer de trouver une solution. Le but est toujours de le rapatrier dans son pays. Seulement, on a la Ligue des droits de l'homme. Il y a des pays où les gens sont réellement en danger de mort s'ils retournent à leur pays. Donc c'est pour ça qu'ils sont ici.
Ça a l'air dommage à l'entendre que la Ligue des droits humains existe parce qu'en fait ça empêche certaines expulsions d'avoir lieu.
Merde alors, c'est con.
Et ça m'a quand même étonné aussi d'entendre le comparatif les potentiels dangereux étrangers versus Marc Dutroux. À croire qu'il n'y a qu'un seul criminel en Belgique.
Oui, et que les crimes pour lesquels ils sont inculpés soi-disant. Enfin, il y a des imams, des personnes qui sont là pour toxicomanie. Mais du coup, on va peut-être enchaîner après. On va écouter peut-être un détenu qui parle de la situation des personnes sans papier dans sa prison. C'est Reda.
Mais je crois bien qu'ils vont faire une prison sans papier ici, dans pas longtemps. Pour dégorger les autres prisons, tu vois. J'ai entendu ça. Ceux qui vont mettre en prison, c'est pas ceux qui vont se rattraper sans papier, qui vont mettre dans un centre. Hein. C'est ceux qui ont commis des faits, qui ont un mandat d'arrêt, qui ont une peine à faire. La grosse population de sans papier, elle est ici. Mais c'est un trafic aussi. N'oublie pas qu'ici, ils ont des ateliers, parce qu'ils font des gros chiffres d'affaires. Ils savent bien que les gens-là, ils ont pas de papier, ils ont rêve au travail à l'atelier, ils les exploitent hein, quand tu regardes. Voilà, ici maintenant, t'as des grosses boîtes, des ateliers, où ils font des bonbons, ils font des boissons, ils emballent plein de trucs, et ça part à Dubaï, ça part par-ci, ça part par-là, tu vois. Et ils leur donnent 200-300 € par mois. Mais écoute, ils leur donnent tous du travail. La femme, elle fait quoi? Elle fait le tour, elle va chez les sans-papiers direct, elle sait qu'ils vont travailler. C'est du trafic.
Et il y a moyen qu'un sans-pap qui arrive en prison, il n'y ait pas de travail pour lui? Ou d'office, il pourra taffer s'il veut?
D'office, il pourra taffer, il y a du travail pour lui en fond à l'atelier.
Ah ouais?
Tous les matins, ils les font descendre comme des Polonais. À 7h du matin jusqu'à 15h30, ils gagnent 150 balles par mois. Les pauvres, c'est de l'acharnement qu'ils font contre eux. Pourquoi? Parce que s'ils prennent 7 ans de prison, ils doivent faire 7 ans à fond de peine. Et quand ils terminent leur fond de peine, ils sont transférés au Maroc, ou alors ils les libèrent ici, alors on leur donne un papier pour quitter le territoire. Au bout de 5 jours.
Et du coup, ils passent de la prison à un centre fermé direct?
Un centre fermé, ouais.
Et après, retour au bled.
Ah, ça va galère pour eux, ça va galère. Tu vois, il y en a un, il vient de faire 4 ans à fond de peine, ils l'ont libéré devant la prison. Il est sorti il y a 2-3 jours. 4 piges. Mais lui, ça va, il est marié avec une fille d'ici. Et il a eu des enfants avec, mais je lui ai dit, je lui ai expliqué un peu comment ça va. Je lui ai dit, fais la procédure, fais un recours, va au tribunal, montre que c'est tes enfants, sinon ils vont te choper, c'est reparti. Tu vois, voilà, 4 ans pour dire. Il y en a, ils prennent des 7-8 ans. En Belgique, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit en Belgique. Mais il y en a, ils ont de la chance. Ils regardent, ils sortent des prisons, ils les mettent au centre, ils les libèrent tout le temps. Hein.
En Belgique, alors?
Ouais. Il y en a, ils vont à voter, ils sont fermés. Ils restent là un mois. Après, ils les libèrent de là-bas.
Mais il y en a qui renvoient aussi, non?
Ah ouais, ils prennent l'avion direct. Et il y en a plein, ils arrivent là-bas, en plus ils sont gênés, parce que voilà, là-bas au Maroc, ils ont dit, putain, t'es parti en Europe, t'as rien fait. Ils sont, c'est la honte, hein. Le mec, il a rien fait, il a pas commis de délit, il a enfermé dans un truc, 4 murs, tu vois. C'est délicat quand même, tu vois. Mais ils ont fait la même technique qu'en France, hein. Parce que dans le temps, en Belgique, quand ils attrapaient des mecs sans papier, ils les relâchaient tout le temps. Et ici, ils ont un peu serré la vis, tu vois. Ils ont fait la même technique qu'en France.
Ah ouais?
Le choper, les médecins sont fermés, ouais, parce qu'en Belgique, avant, les sans-papiers, ils étaient à l'aise, hein. Ils les contrôlaient, ils les relâchaient, Ça fait 2-3 ans que maintenant, ils ont serré le bazar, tu vois. Ils ont fait la même technique en France, pour limiter depuis qu'il y a eu les clandestins. Là, qu'ils ont les problèmes en Syrie et tout, là, ils ont serré le bazar, ils font un nettoyage, t'as compris? Ça va? Parce qu'il y a trop d'immigrés. Donc, le pays, si son pays n'est pas en guerre, il est dans la merde, quoi. Maintenant, il y en a plein, il baratine, il dit qu'il vient d'un pays en guerre, et ça les sauve, tu vois.
Alors, on entend que la situation des sans-papiers en prison peut être super compliquée, elle peut être. Peut-être plus encore que pour d'autres personnes. Ils et elles ont moins de visites, elles sont souvent encore plus isolées. Ces personnes ont moins d'aide financière et donc sont encore plus dépendants du travail sous-payé. Quelque chose que je trouvais assez interpellant dans ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est la question de si tu viens d'en payer en guerre, bon bah ça va, sinon si t'as décidé juste de bouger parce que t'avais envie de bouger, bah en fait ça craint. Pour moi, ça met en exergue aussi le fait que bah, les frontières sont des prisons, qu'elles sont aussi des cadenas sur les libertés et qu'elles font que, en fait, elles justifient ou pas le fait de pouvoir bouger et le fait de pouvoir voyager. Et donc, simplement le fait de dire, ok, en fait, je vais dans un autre pays, peut poser beaucoup de soucis, de problèmes, et en fait peut déboucher sur un enfermement. Et pour moi, ça montre aussi la structure raciste en fait de toutes ces politiques migratoires. Nous, en tant qu'Européens, Européennes, blancs, blanches, on n'aura pas trop de soucis à se barrer à l'autre bout du monde. Par contre, si on vient,
Ouais, nous, on est des expats. Enfin, c'est pas pareil, quoi. On est les papiers, quoi.
Bah ouais, carrément, ça nous renvoie à nouveau au lexique, en fait. Hein. Expat ou réfugié ou migrant, clairement, ça renvoie à des imaginaires complètement différents, quoi.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce témoignage, mais oui, par contre, on entend parler de travail en prison, Enfin, je pense que c'est une thématique super importante aussi et que ce serait chouette de faire une émission Laisse pas béton là-dessus, peut-être bientôt.
Ouais, surtout qu'on n'a pas entendu beaucoup de témoignages dessus, mais le travail en prison et le travail en centre fermé, c'est clair, on a reçu beaucoup de témoignages qui disent en fait c'est un business. Il y a des gens qui travaillent là pour 150-200 euros par mois, et ces gens qui travaillent là sont très heureux de pouvoir travailler parce que ça fait des interactions, ça fait le fait de pouvoir sortir, ça fait un peu d'argent de poche pour pouvoir s'acheter des trucs à la cantine, et donc ça fait partie de tout le business qui est autour des prisons et qui est bien sûr un des focus qu'on va avoir dans cette émission par le futur. Et par rapport à la rumeur qui est donnée dans ce témoignage que cette prison va devenir une prison pour son papier, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent, mais ça revient souvent que tel ou tel centre fermé va devenir une prison pour son papier, ou à l'inverse qu'une prison va devenir pour son papier, et donc du coup c'est un focus, il faut avoir l'air payer attention à ça. Maintenant, avant de passer au point actu, on va écouter ensemble.
Moi, je voulais juste quand même faire réagir par rapport à ce que tu disais, parce que je trouvais ça intéressant, la question du travail, parce que j'y vois deux choses. Je vois les personnes qui sont détenues en prison, par exemple, et qui travaillent pour pouvoir avoir un peu de thunes fin du mois. Et je vois aussi le travail qui est organisé tout autour en fait des structures d'enfermement, donc qui implique toute une série d'entreprises, que ce soit les entreprises de construction, les entreprises de bouffe, les entreprises de surveillance, etc., etc. Et en fait, qui sont un max de thunes aussi sur l'enfermement. Et donc c'est d'autant plus questionnable parce qu'en fait, voilà, il y a aussi un objectif et un but à tout ça. Je sais plus si on l'entend dans le témoignage de Gabriel, parce que le témoignage était très complet, donc on a dû couper certaines parties, mais elle met aussi l'accent là-dessus, en fait. Elle dit, vous ne nous aidez pas, et tout ce qui compte, en fait, c'est l'argent. C'est qu'une image, en fait, que vous donnez, et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est le fait de faire de l'argent. Je trouvais ça assez intéressant.
Ouais, je rebondis. Du coup, on n'a pas... peut utiliser dans cette émission le mot absurde pour, par exemple, la situation que vivent les gens, ou alors la situation absurde des prisons ou des frontières, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'absurde, il y a toujours une raison derrière, et souvent c'est l'argent, parfois c'est le pouvoir, souvent c'est les deux, mais en tout cas, il y a toute une logique derrière, et que c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et donc maintenant, si c'est OK, on passe à la chasse est ouverte du ministère des Affaires Populaires.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le président a dit à monsieur le ministre de dire à monsieur le préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des pots clairs, les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a défausé air d'un Vichy sous l'occupation, réminiscence d'une époque. Le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours, mon frère, cours, ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France, ils ont voté. Et maintenant, silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Un mouton. T'as tes papiers ?
Attrapez-le !
Non. Dommage.
Entendez-vous, chers citoyens, le cor de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre. Sachez, chassez, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez, croisez les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend, six pieds sous terre. Hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître,
la chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre,
la chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école,
la chasse est ouverte.
Au berceau, à l'hôpital,
la chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens,
la chasse est ouverte.
Du 1er au 31,
la chasse est ouverte.
Automne, hiver, printemps, été,
la chasse est ouverte.
Samedi, dimanche et jours fériés,
la chasse est ouverte.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Vous écoutez Radio Panique 105.4 sur l'émission Laisse pas béton. Pour terminer, un petit point d'actualité sur les prisons. On commence par le témoignage de Mehdi qui nous parle des conditions du Ramadan en prison. qui, pour rappel, s'est terminé ce 23 mai.
Voilà, moi, je suis directement concerné. Ouais. Je fais le ramadan, comme beaucoup de personnes sont en prison. Malheureusement, c'est voilà, la population, il y a beaucoup de musulmans qui font le ramadan. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme place? Comme ils nous ont fait une cantine par semaine ramadan spécial avec une quinzaine de produits, genre des produits de la culture musulmane, tout ça, voilà, pour faire des plats de ramadan, mais voilà, c'est vite fait, c'est de l'olive noire, des olives vertes, des feuilles de brique, voilà, et ils nous ont donné, genre, au début du ramadan, une boîte avec des dattes, une boîte de biscuits, et un sachet de thé, enfin, une boîte de thé, et ouais, c'est tout, je crois. Donc, donner trois trucs comme ça. Et une boîte de soupe, de soupe marocaine là, pour qu'on mange le soir, ça s'appelle Fela. Et voilà. Et en gros, ils ont pris ça comme mesure. Les repas, pour ceux qui font ramadan, ils ne sont pas préparés en journée. Ils sont préparés plus le soir. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer à manger en prison, ben, de manger la nourriture de la prison. Donc, ils ont des barquettes le soir. Mais encore une fois, voilà, c'est pas top top, tout ça. Et du coup, vu qu'on est en ramadan et qu'on est confiné, le temps il passe mais vraiment très 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 lentement. Pour ceux qui font un vrai ramadan, ceux qui sont là, ils s'abstiennent de fumer, boire et tout. Il y en a certains, voilà. En gros, ils ont pris des mesures, mais minimes, je trouve.
Ok.
C'est la même chose, chaque année la même chose. Chaque année la même chose, et c'est que. Et c'est que il y a même des organismes qui s'occupent de ça, qui parlent des trucs qui proposent à l'habitude des prisons, tout ça, voilà. Il y a des gens bénévolement qui donnent des fonds pour pouvoir donner à manger aux centres pour ramadan et tout. Mais ces fonds sont les repas, tout ça qui vient de l'extérieur sont refusés pour des raisons de sécurité, genre la nourriture. Peut comprendre des situations, des trucs là, on peut faire des choses et tout. Mais donc, voilà, ils peuvent prendre des mesures pour plein de trucs, ils contrôlent la nourriture, ils ne savent pas. Donc, d'être protégé.
Voilà, merci à Mehdi pour ce témoignage. Moi, ça me rappelle simplement que tout a l'air plus compliqué en prison à l'intérieur qu'à l'extérieur. Déjà, il y a le stress du corona et puis après, t'ajoutes à ça le ramadan, toute l'organisation que ça implique, j'imagine que c'est encore plus difficile à faire et à vivre enfermé entre quatre murs. Merci aux assos qui ont soutenu les détenus pendant cette période. Je sais qu'on a relayé des messages sur la page Facebook de la CLAC.
Du coup, au point actuel, nous avons le 4 mai, c'est suite à la crise du coronavirus, enfin la crise de la gestion du coronavirus par les autorités, mais c'est le début des visites par vidéo dans les prisons. De nombreuses personnes concernées redoutent que le système soit rendu permanent dans le futur et que ça remplace en fait les visites physiques. Les visites se font donc sous surveillance de gardiens. Et de plus, ce système est déjà utilisé par les prisons comme un moyen de répression. Il est utilisé comme sanction contre des proches ou des détenus qui l'ouvriraient trop.
Et toujours dans l'actu, donc le 11 mai, c'est le début du déconfinement en Belgique. Les visites peuvent reprendre, mais pas en prison. Il faudra attendre, sans aucun agenda public pour le moment.
Et donc, il aura fallu attendre 7 jours supplémentaires pour avoir des nouvelles officielles. Et donc, le 17 mai, on annonce que les visites reprendront le 25 mai sous des conditions strictes.
Le 17 mai aussi, ça fait 2 ans que Maouda a été tuée par une balle de la police belge lors d'une course-poursuite avec des personnes migrantes. Ça s'est passé près de Mons. Elle avait 2 ans. Sur le coup, la version officielle prétendra que les occupants et occupantes auraient utilisé l'enfant comme d'un bouclier, voire d'un bélier, pour défoncer une fenêtre. Entre-temps, un policier va être inculpé. Pour l'occasion, en cette année 2020, de nombreuses affiches et tags ont décoré la ville de Bruxelles et de Mons, et on a pu observer aussi un cortège de ballons sur les étangs d'Ixelles en sa mémoire.
Et du coup, avant d'enchaîner directement avec l'actu, je me permets une petite réaction par rapport à cette actu. Ça me fait juste penser, donc là on parlait des centres fermés, on a évoqué le Semira Adamou. Le nom Semira et Maouda sont assez souvent liés, simplement parce qu'en fait, ce qui a permis la mort de Maouda, l'assassinat de Maouda et l'assassinat de Semira sont dus en fait à des décisions politiques. Le contexte politique a permis qu'un policier se sente ok en fait d'étouffer Semira Adamou dans un coussin avant son expulsion, et ça a permis aussi qu'un flic se sente ok en fait de sortir son arme pour tirer sur une camionnette qui transportait des migrants. Et donc je trouve ça important en fait de rappeler que ces deux personnes sont liées et que ça fait partie d'une même lutte et qu'on n'oublie pas. Du coup, je fais l'enchaînement avec, du coup, toujours point actu, 22 mai. Un préavis de grève est déposé pour juin. Les syndicats redoutent les reprises des visites et mettent la pression pour préserver les matons. Aucune mention n'est faite du bien-être des détenus. On les oublie encore.
Et donc, le 25 mai, après 74 jours de contact avec l'extérieur uniquement par téléphone, à cause de la crise du corona, les visites physiques peuvent enfin reprendre, n'est-ce pas Greg ?
Oui, tout à fait. Les visites ont commencé à reprendre dans différentes prisons. Elles étaient annoncées pour le lundi 25, mais ça a été retardé à cause du préavis de grève des matons qui dénonçait un manque de sécurité sanitaire lors des visites. Alors, il faut savoir qu'à nouveau, les gardiens sont toujours plus exigeants envers les détenus et leurs proches qu'envers eux-mêmes, car eux-mêmes ne respectaient pas vraiment les mesures jusqu'à présent. À la base, la demande des syndicats disait que on pouvait pas croire sur parole une personne qui disait sur l'honneur « j'ai pas été malade sur les 14 derniers jours », ils voulaient des preuves par rapport à ça. Bref, cette menace de grève fait suite à 2 mois sans visite, sans oublier les visites limitées à cause des grèves depuis novembre. Pas étonnant que plusieurs gardiens ont annoncé refuser de suivre cette grève si elle avait lieu.
Ben donc en tout cas, les visites ont commencé à reprendre dans plusieurs prisons. Il s'agit de visites limitées à une par semaine où les proches doivent, entre autres, à la fois porter un masque fourni par la prison et se trouver derrière un plexiglas. On a entendu que cette double mesure protectrice, elle fait que simplement ça devient compliqué d'entendre et de comprendre la personne en face de soi. Et vu qu'il y a plusieurs visites en même temps, il y a beaucoup de discussions dans une seule pièce, donc c'est encore plus compliqué de se comprendre. Et plusieurs personnes nous ont dit aussi qu'une même langue, c'est super difficile en fait de résister, de ne pas toucher la personne en face de soi. En plus, il y a si jamais il y a un contact physique, et ben c'est à nouveau c'est le détenu qui va être puni, qui va être mis en isolement. Et c'est important de rappeler aussi que jusqu'à aujourd'hui, et ben les enfants ne peuvent toujours pas aller voir leurs parents incarcérés.
Donc voilà, donc ça c'était pour le point actu. Nous on se disait qu'on ne pouvait pas quitter l'Est-Pas-Béton sans parler de la lutte contre les centres fermés, puisque ça a quand même été un des sujets principaux de cette émission. Du coup, au travers de cette émission, on a entendu que les centres fermés, c'était la merde, tout comme en prison. Et la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut se battre contre, en gros, comment est-ce qu'on peut défoncer les centres fermés. Je crois qu'un des premiers points d'intention à voir, c'est que la lutte, en fait, c'est d'abord celle des personnes qui sont concernées, donc celles qui sont à l'intérieur, les personnes qui sont détenues et qui sont enfermées. Il faut savoir que, non, la lutte contre les centres fermés, c'est pas juste des manifs en face, c'est aussi des gens, en fait, qui sont, et aussi et avant tout, des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en grève de la faim, qui se révolte à l'intérieur, qui essaie d'agir avec tous les moyens qu'ils ont sous la main. Il faut savoir aussi que les luttes à l'intérieur des centres fermés, elles sont sévèrement réprimées, systématiquement on sépare les groupes qui s'organisent, qu'il y a des mises en cellules d'isolement, que les personnes sont envoyées au cachot, que parfois aussi les personnes sont transférées vers d'autres centres fermés. On l'a dit juste avant que cette lutte à l'intérieur des centres fermés, on ne peut pas l'évoquer sans parler de Semira Adamou, qui est cette jeune Nigérienne qui a été assassinée par la police il y a plus de 20 ans. qui était enfermé donc au 127, qui a subi donc 5 tentatives d'expulsion avant de subir la 6e en fait qui a été fatale, et qui est assez emblématique en fait de la lutte et de toute l'organisation qui a pu se créer autour de donc de l'enfermement en centre fermé pour étrangers.
La lutte contre les centres fermés, c'est aussi le soutien à l'extérieur. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour se rendre compte que les frontières, c'est pas un système qui soit propice à la meilleure entente entre nous, et que on peut soutenir à l'extérieur, on peut encourager la lutte qui se passe à l'intérieur, on peut appuyer, on peut soutenir, et il faut continuer à le faire.
Ouais, et donc la lutte, c'est aussi des collectifs à l'extérieur, comme Getting the Voice Out ou comme le CRER, dont on a déjà parlé, qui justement visibilisent des témoignages de personnes en centre fermé, parce que c'est... C'est important qu'on entende ces personnes qui y sont, et que en fait les médias et les politiques cachent trop ce qui s'y passe, et donc voilà, c'est important que ces collectifs soient là aussi pour relayer les paroles des personnes à l'intérieur.
Oui, et avant de passer toujours à quelque chose lié à la lutte, mais au-delà donc des centres fermés, j'avais juste envie d'ajouter sur ce que tu disais, Greg, par rapport à la lutte à l'intérieur, le fait d'appuyer, le fait de soutenir aussi, ça peut encourager en fait et faire juste simplement en sorte que les gens à l'intérieur se sentent moins seuls. Spécifiquement là, pour le moment en temps de Covid, les centres fermés, ça a été aussi les grands oubliés. Il y a des personnes qui n'ont pas été libérées et qui comprennent pas pourquoi elles sont pas libérées en fait, et ce qui est totalement ce qu'on comprend évidemment. Et qui vit ça comme une énorme injustice, et le fait de pouvoir simplement les appeler, leur montrer qu'en fait on pense à elles, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment hyper important en fait. C'est juste, ok, n'oublions, enfin voilà, on vous oublie pas en gros. Et du coup, une des choses aussi qui est hyper importante, c'est la lutte contre les expulsions, parce qu'en fait quand on est en centre fermé, on risque d'être expulsé à un moment donné. Et faut savoir qu'il y a des personnes qui se mobilisent pour pouvoir aller à l'aéroport pour prévenir les passagers en fait qui vont embarquer avec une personne qui va être expulsée, pour leur dire en fait vous avez la capacité d'agir, vous avez la possibilité de dire je suis pas d'accord, je veux parler au commandant, je veux pas m'asseoir, et ce qui permet parfois d'éviter des expulsions. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais en tout cas il y a déjà eu des empêchements d'expulsion qui sont terminés avec succès, donc qui n'ont pas eu lieu. Et donc c'est important aussi à savoir que la lutte elle est multiple et qu'elle peut se faire à différents niveaux.
Alors on va arriver au moment des big ups, c'est-à-dire la fin de cette émission de l'ESPA Béton. C'est le moment de vous annoncer le lancement du répondeur de l'ESPA Béton. Alors il suffit de téléphoner au 0467 67 29 71, et vous pourrez alors laisser un message aux personnes qui sont à l'extérieur si vous êtes pour le moment à l'intérieur d'une tôle, ou un message pour l'intérieur si vous êtes à l'extérieur, ou alors de l'intérieur à l'intérieur, que ce soit aux gens en général ou à votre amoureux, votre copine, votre cousin, votre sœur ou autre. On va mettre le numéro de téléphone sur le site sur la page de l'ESPA Béton sur Radio Panique, radiopanique.org, et on les diffusera à l'antenne. Par la suite, tout de suite, les big ups.
Voilà, avec courage, force à toutes les personnes enfermées, en centre fermé, en prison. Courage à toutes les personnes à l'extérieur qui les soutiennent, qui sont là au quotidien avec elles. Force à vous et on vous oublie pas.
Ouais, courage, on continue à écouter vos témoignages, à écouter ce que vous vivez à l'intérieur, ça continue à nous foutre la haine, et on laisse pas tomber, on laisse pas béton.
on laisse pas béton. Et ouais, effectivement, on fait ce qu'on peut, mais on est là et on vous oublie pas. L'enfermement, c'est pas la solution. Et on va continuer à soutenir ce qui se passe autour des prisons et des centres fermés. On termine avec les big up.
Moi, je vais encore faire un big up, si je peux, si j'ai le temps. Je sais pas quelle heure il est. Ok. Tant pis. Je fonce. ouais, moi, je voudrais faire un big up à Gabi. Je voudrais lui dire juste, en fait, de continuer à se marrer, parce qu'elle me fait trop marrer. De continuer à avoir la patate et de pas laisser tomber. Je me répète un peu. Mais ouais, j'avais juste envie de lui faire un big up tout court, en fait.
Big up à toutes, à tous. Ciao.
Gros big up à tous ceux qui sont à la prison de Forêt. Big up, pourquoi ça vous? Si vous entendez ce message, force les gars, force. Bientôt c'est fini. Bientôt, voilà, ça va retrouver le train du quotidien. Big up à toutes les prisons. Force à vous, reste à vous. Continuez pas vous laisser marcher dessus. Voilà, le reste, prenez des mesures. Vous faites n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on traite des gens, surtout qui peuvent pas aller au médecin quand ils veulent ou qui sont assistés. Je veux dire, en prison, on a assisté. Donc, les gars, force à vous. Et on baisse tous les policiers et on baisse tous les matons qui comprennent pas ça. Et on baisse tous les matons qui comprennent pas qu'ils jouent avec nos vies et qu'ils savent pas gérer nos vies. Merci beaucoup. Et merci à la zone. Franchement, merci pour vous, merci de faire valoir la parole des détenus. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont kiffer ça. Un gros big up aux chefs qui sont cool, aux chefs qui nous comprennent, aux chefs qui nous font rentrer des trucs, aux chefs qui nous voilà qui nous soutiennent pendant le confinement et qui comprennent tout à fait que c'est con cette mesure. Et voilà, il y a force à quitter prison à tous les détenus. Courage à vous pendant le confinement, voilà. C'est ce que je voulais dire.
Billy Rose was a low rider. Billy Rose was a night fighter. Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car. The local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale. I believe he fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black, a cell on a block. Head. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Him with a needle in his arm, but the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down, and we'll raise the prison to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who
stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. At the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in Texas sunlight, and the cops all stood around. Old Keeler Water ran 50 yards, then threw himself.